Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre.
Je suis Maxime, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
On travaille tous les deux au C3RP, une unité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience. Et plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement.
Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Firas. Salut Firas.
Salut, salut.
Et on va parler aujourd'hui des émotions dans l'autisme. Alors Firas, si on parle d'émotions dans l'autisme, toi, qu'est-ce que ça t'évoque dans un premier temps, même au début de ta vie et maintenant?
Alors moi, ça m'évoque des problèmes. Alors avant dans l'autisme, si je pense aux émotions de manière générale, c'est un concept avec lequel j'ai jamais eu particulièrement de problème. Enfin, je veux dire, théoriquement, c'est assez clair. Mais dès qu'il s'agit de mes émotions à moi, c'est là que, ou en tout cas comment je les vis, c'est là que ça devient la catastrophe en fait. Enfin, la catastrophe non, mais c'est là que les problèmes commencent.
Ça veut dire que d'un point de vue théorique, les émotions, tu comprends. Mais d'un point de vue pratique, c'est une autre histoire.
Ouais, c'est exactement ça.
Je peux vous donner un exemple pratique.
Et c'est là qu'on reconnaît les professionnels. D'ailleurs, c'est que vous ne m'avez pas demandé comment ça va en démarrant le podcast. pourquoi? Alors du coup, l'exemple que je prends, c'est celui-là, en fait. C'est quand on me demande comment ça va, en fait. Alors souvent, je ne dis pas la vérité, je mens, donc, pour une raison qui est assez... simple, en fait, c'est que des fois, je ne sais pas si la personne est intéressée par la réponse. Et même si elle est intéressée, je ne sais pas à quel degré, tu vois, je ne sais pas à quel point je dois raconter ma vie, etc. Et je pense que jusque-là, c'est un problème qui est assez commun à tout le monde. Sauf que ça, pour moi, c'est une minorité des cas. C'est-à-dire que quand je mens, généralement, c'est pour une autre raison, et c'est parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça va. Et donc, vraiment, si quelqu'un... venait me voir et me disait alors je veux vraiment savoir comment tu vas, on a une heure, voilà, tu peux me raconter, moi, pour moi là c'est la panique totale, c'est vraiment je suis perdu, c'est voilà, donc dès le matin on commence les questions difficiles, il n'y a pas, même pas de café, direct, je sais pas comment répondre à cette question, donc vraiment c'est la panique, c'est juste que je sais pas quoi dire, en fait j'arrive pas à le ressentir à l'intérieur.
Ça a toujours été le cas, ça?
Aussi loin que je me souvienne, ouais. Je ne m'en rendais pas compte maintenant, mais rétrospectivement, je me souviens qu'effectivement, mes parents me demandaient souvent comment je me sentais. Et je leur disais, je ne sais pas. Et au point où ça les frustrait énormément, parce qu'ils ont besoin de savoir comment leur enfant se sent, en fait, dans la vie, je veux dire, pour savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Et là, j'étais devant eux, ils avaient toujours un gamin, là, je ne sais pas. C'est la même chose, c'est dès que je ne sais pas, en fait, voilà, je leur dis, je m'en fous, comme si ça m'était égal. Mais en fait, ce n'est pas que je n'ai pas d'avis, c'est que je ne sais pas le reconnaître en fonction de mes émotions, en fait.
Donc, il y a déjà la question de la reconnaissance des émotions qui peut poser problème.
Du coup, si on te posait la question sous une autre forme et qu'on te demandait quelle émotion, là, à l'heure actuelle, tu ressens, est-ce que là, ça serait plus simple?
Non. Là, si on me pose vraiment cette question, mon premier réflexe, c'est de me dire comment je peux me barrer d'ici. Je me dis, je cherche la porte de sortie. En fait, avec le temps, je pense que j'ai appris à différencier globalement si c'est des émotions plutôt négatives ou pas, mais c'est jamais très précis, en fait. Donc si je dois faire le tri dans les émotions négatives ou même positives, d'ailleurs, alors ça qui est assez bizarre, c'est que des fois, même quand je vais bien, en fait, je m'en rends pas compte. Donc des fois, c'est vraiment après coup... il y a ce dicton, se disant, c'est quand on perd un truc, on se rend compte que c'était bien ou machin truc. C'est un peu dans cette veine-là, en fait. Ou même les émotions positives, je les ressens pas nécessairement. Et je suis même pas toujours sûr de savoir à quoi les attribuer, etc. Donc j'arrive un peu à faire la différence entre, globalement, ça, émotion négative ou positive. Mais même là, c'est difficile.
Est-ce qu'il y a un impact de l'intensité de ce que tu ressens dans cette reconnaissance?
Ouais, y a un stade où vraiment, quand je me sens extrêmement mal, ça devient évident. Mais du coup, je pense que ce seuil est anormalement élevé par rapport aux gens, en tout cas de mon entourage. Faut vraiment que je sois au bout du rouleau pour commencer à me dire, il se passe quelque chose.
Et dans ces moments, du coup, tu dis que tu arrives à identifier tes émotions quand elles sont finalement extrêmes. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui te fait dire que tu ressens telle émotion? Sur quoi tu t'appuies dans ces moments pour te dire que oui, je ressens une émotion et c'est celle-ci?
Bah du coup, justement, alors, comme j'arrive pas à m'en rendre compte à l'intérieur de moi, disons, je me sers d'indices extérieurs, en fait. Donc, tout ce qui peut m'aider à me rendre compte que quelque chose ne va pas, bah, ça m'aide, en fait, en termes d'indices. Par exemple, si je me rends compte que je mange pas, par exemple, je mange moins. Ça, c'est un bon indice, en fait. Parce que j'ai réussi à l'affiner, c'est-à-dire que quand je vais mal à moyen terme, je mange plus. Je mange beaucoup, etc., beaucoup plus que d'habitude. Quand je vais vraiment très mal, je mange plus du tout. Donc j'ai réussi à me rendre compte que c'était une représentation d'émotions négatives et avec suffisamment de précision pour avoir voilà, deux paliers de... Ben, j'allais dire d'angoisse, mais en fait non, ça peut être l'angoisse, tristesse, ça j'arrive pas à faire la différence du coup entre quelle émotion c'est, mais j'arrive à me dire émotion négative à degré 1, degré 2, etc. avec ce genre d'indice.
Ok, donc tu as détecté finalement des indicateurs externes,
ouais,
qui, dans les moments où tu ressens des émotions assez extrêmes, sont assez visibles,
mmh,
et du coup te permettent de dire oui, là il y a ça qui s'est modifié vachement, du coup ça veut dire que là il y a une émotion, c'est sûr.
Ouais. Et le défi du coup, en tout cas pour moi, c'est de bien faire le tri entre un indice qui soit vraiment une représentation donc, d'une émotion négative, ou autre chose en fait, parce que du coup le risque c'est par exemple de me dire ok, là j'ai plus faim que d'habitude, c'est à cause de ça, en fait ça pourrait être un médicament que je prends qui a pour effet secondaire de me creuser l'appétit ou au contraire de me retirer l'appétit. Donc en fait pour moi du coup le défi c'est vraiment de faire en sorte que les indices soient bien, soient sûrs en fait, et que ce soit pas attribué à autre chose.
Est-ce que tu as d'autres indices en dehors de l'appétit qui sont objectifs?
Alors, des objectifs, je ne sais pas, des observables.
Ouais.
Je dois avoir, je pense que. Alors, j'ai le sommeil. Le problème, c'est que. Alors, le sommeil, je veux dire le rythme du sommeil. Donc, la durée qu'il me faut pour m'endormir, le temps que. Enfin, mon temps de sommeil, les heures à laquelle je me réveille, etc. Le problème, c'est que j'ai toujours eu un rythme du sommeil très, très décalé, enfin, très instable. Donc c'est particulièrement difficile de savoir si c'est vraiment dû à un épisode spécifique qui crée une émotion négative ou si c'est quelque chose vraiment sur une plus longue période. Ou... C'est pas très clair.
Si, si. Ça signifie que ton sommeil, en fait, il est de toute façon un peu anarchique et que du coup, tu peux pas trop faire une comparaison entre, par rapport aux émotions, ce serait ça?
Ouais, c'est que de toute évidence, je me rends compte que c'est le signe d'un problème, mais je sais pas. C'est bien plus difficile d'en déterminer la cause, du coup. Il y a aussi la fréquence à laquelle je sociabilise, en fait, tout simplement. Je sais que c'est pas quelque chose que je fais énormément, mais donc, du coup, je sais avec le temps quelle est ma vitesse de croisière, en fait. La fréquence à laquelle j'ai l'énergie pour voir des gens, faire des activités, etc. Et donc, quand j'en fais beaucoup moins, là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, je me dis que c'est potentiellement pareil... le signe d'une émotion négative.
Ça serait en lien avec quoi, le fait de diminuer les relations sociales? Tu mets en lien avec les émotions, mais est-ce que c'est en lien... Enfin, l'idée qui me vient, c'est aussi une fatigabilité, peut-être, non?
Avec le temps, j'ai réussi vraiment à savoir ce que ça représente à un moment où je suis juste fatigué parce que j'ai trop sociabilisé. J'arrive à me rendre compte un peu de ma réserve d'énergie, et donc je me rends compte, si elle est basse, j'arrive à me dire, ok, c'est parce que là, j'en ai trop fait, d'accord, mais il n'y a pas de problème autre. Au-delà de ça, il y a des moments où je me rends compte que c'est particulièrement problématique, où j'arrive vraiment pas à sociabiliser sur le plus long terme. Et je sais que là, c'est plus juste une question de fatigabilité. C'est qu'à mon avis, c'est que dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas. Le trouble de l'attention aussi, d'ailleurs, c'est pas mal, celui-là. Alors, en plus d'être autiste, j'ai un trouble de l'attention, ce qu'on retrouve chez pas mal d'autistes et d'autres personnes. Et je me rends compte aussi que quand mes symptômes s'aggravent au-delà d'un certain point, je sais que c'est plus juste mon trouble de l'attention, en fait. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache, ou alors même des symptômes du trouble de l'attention qui normalement ne me concernent pas. Si je les ai, c'est que du coup, c'est plus. Je pense que. En tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que c'est peut-être plus juste le trouble de l'attention et qu'il y a peut-être un truc chelou qui se cache en termes d'humeur ou d'émotion ou de machin.
Ok, finalement, du coup, tu as tout un ensemble comme ça d'indicateurs observables,
ouais,
sur lesquels tu fais des espèces de calculs pour savoir par rapport à d'habitude comment je me situe et autres. Et à partir de ça, tu. Identifie un état émotionnel ou pas, avec du coup ce risque de pas réussir à identifier assez finement l'émotion parce que justement ces indicateurs sont pas spécifiques à une émotion ou un état, mais sont assez globaux et après on reste sur des hypothèses de « Ah là, je me sens plus fatigué que d'habitude et plus mal que d'habitude, donc il doit y avoir quelque chose. » Et après, c'est que des hypothèses de « Ah, ça doit être un petit moment déprime, ou alors je suis triste, ou alors je suis anxieux, ce genre de choses. »
Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai même abandonné l'idée de savoir précisément de quelle émotion il s'agit, si elle est négative, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, etc. Parce que, alors avant, plus tôt dans ma vie, j'avais tendance à me dire, ben, si je reconnais pas l'émotion, si je suis pas sûr de moi, etc., ben, tout va bien, enfin, pas tout va bien, mais du coup, je passais pas à l'étape suivante, qui serait du coup de trouver une solution, en fait. Parce que je me disais, bon, ben, je passais tellement de temps à essayer de savoir de quelle émotion il s'agissait, que j'oubliais de la réguler ou de trouver une solution si elle pose problème. Maintenant, je me dis que, voilà, si je sais qu'elle est globalement négative, même si je ne sais pas de quoi il s'agit, je m'en fous, j'essaie de mettre en place des solutions et puis ça m'aide un peu mieux.
Il y a un truc qui serait peut-être intéressant de faire à ce moment, peut-être qu'on aurait dû le faire avant, c'est définir, du coup, pour toi, c'est quoi une émotion ?
Aïe.
La petite colle du jeu.
Ah, c'est là qu'on reconnaît les professionnels, épisode 2.
La porte de sortie, elle est là. L'échappatoire.
Non, parce, ok, d'accord. Parce que c'est, non, mais parce que c'est vrai que c'est une question importante, du coup.
Oui, carrément.
Mais c'est aussi très chiant à expliquer. Pour moi, je veux dire, dans ma vie, de manière générale, quand on me demande comment je définis une émotion. Alors, j'ai toujours eu un problème avec la notion de...
C'est quoi une émotion, finalement ?
C'est vrai que c'est une question pas facile, en fait, hein, en vrai.
Bien sûr.
Mais de manière générale, enfin, je veux dire, que tu sois autiste ou pas, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Comment tu le ressens ? C'est pas si évident.
Mais c'est même pas ça, en fait. Je l'ai la réponse, c'est juste qu'avec le stress du moment, bah, je perds la manière dont je sais l'expliquer. En fait. Oui, alors, en fait, pour les émotions, du coup, j'ai toujours eu un problème avec la manière dont on me l'a défini, en fait, tout au cours de ma vie, puisqu'on me disait que c'était quelque chose de ressenti, c'est quelque chose qu'on ressent, en fait. Et comme moi, mon problème, justement, c'est de ne pas les ressentir, ou en tout cas, pas reconnaître que je les ressens. Ou... Bah déjà, même le fait de l'expliquer, c'est flou, en fait, pour moi. Donc ça illustre à quel point, en fait, il y a un moment dans l'explication du terme où ça n'a jamais connecté pour moi. Donc, pendant très longtemps, quand on me demandait de définir les émotions, si ce n'est vraiment l'explication théorique de la joie, c'est quand on est content, la tristesse, j'étais perdu. Et donc le moment où les choses ont commencé à se débloquer, c'est quand j'ai appris du coup que l'émotion pouvait juste se définir en termes de réaction physique, physiologique, ou à la suite, je ne sais plus. Mais du coup...
Psychologique,
voilà. Mais du coup, alors, même ça déjà, c'est un peu trop pour moi, donc je m'arrête généralement à juste physique et physiologique. Et à partir de là, du coup, ben, c'est bien plus simple, en fait, parce que j'ai plus besoin de la ressentir, l'émotion. Si je sais que c'est juste un signe physique, bah, je me rends compte que je transpire, mais qu'il ne fait pas chaud, ok, il y a peut-être un truc chelou, ou ce genre de choses. Alors pareil, encore une fois, je dois faire l'affinage pour savoir si c'est vraiment le signe d'une émotion, si ce n'est pas autre chose, bien sûr. Mais du coup, j'ai plus cette attache de « si je ne le ressens pas, ce n'est pas une émotion ».
Et ça, c'est des éléments, tu disais que c'était déjà quand tu étais petit, enfin depuis toujours.
Hein. Ouais, c'est aussi loin que je me souvienne.
Et quand tu étais gamin, par exemple, quand on t'offrait quelque chose, tu étais peut-être content, toi, comment tu le ressentais ?
Alors ça, c'est encore toute une histoire. Des fois, j'étais suffisamment content, pareil, c'est une question d'intensité. Parfois, c'était tellement intense que j'avais pas de problème pour m'en rendre compte. Mais la majeure partie du temps, on était dans un entre-deux, enfin vraiment, c'était trop flou en fait. On était dans une zone où c'était pas assez intense pour que je m'en rende compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai horreur des cadeaux. En tout cas, des cadeaux tels qu'ils existent traditionnellement dans la société. C'est-à-dire que j'aime pas faire tu vois, tout ce qui est Noël, ou en l'occurrence pour moi l'Aïd, ce genre de choses où il y a un cadeau qui est attendu. Ça m'énerve parce que du coup, ben, comme je sais pas comment je vais me sentir vis-à-vis du cadeau, et qu'il y a une attente un peu de partage, de joie, etc., je suis mal à l'aise. Je me dis, merde, imagine, j'allais dire je suis pas content. C'est même pas je suis pas content, c'est imagine que j'arrive pas à me rendre compte que je suis content, comment je fais ? Et du coup, inversement, j'aime pas faire des cadeaux pareils aux gens quand c'est prévu, parce que du coup, je me dis que je vais les mettre dans cette position-là. C'est pour ça qu'en fait, moi, les cadeaux, je les fais vraiment sans occasion particulière, par derrière, un jour de pluie, cadeau ninja, comme ça, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, généralement, j'attends même pas de voir la réaction de la personne, je la laisse comme ça, il n'y a pas cette gêne de « c'est pas comment je me sens », etc.
Tu préfères ne même pas être présent en fait au moment de l'échange de cadeaux.
Alors ça, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, parce que je me dis, moi je préfère recevoir un cadeau et de pas ressentir l'attente de l'autre personne, se dire « ah, il faut que Firas soit content pour le truc et tout », parce que si j'arrive pas à l'exprimer, ça va être bizarre.
Donc, c'est un truc qu'on t'a fait remonter, enfin qu'on t'a... qu'on t'a dit quand tu étais gamin, par exemple ? Est-ce qu'on t'a fait ces remarques-là ? Est-ce que ton entourage t'a fait ces remarques-là sur ton expression, ton expressivité émotionnelle ?
Alors là, c'est du coup, oui. Mais est-ce que c'est un problème d'émotion ? Est-ce que c'est ma tête ? Je sais pas.
Parce que c'est vrai que...
c'est vrai que... En anglais, ils appellent ça resting bitch face, du coup.
Quoi ?
Alors, t'es pas forcément obligé d'avoir le bitch. Tu peux juste être sur une resting face.
Je sais pas si... Alors, moi, j'ai jamais entendu... Moi, je l'ai entendu... j'ai entendu que la version resting bitch face.
Moi, j'ai entendu ni l'une ni l'autre. Je connais pas du tout.
Alors, c'est un principe selon lequel certaines personnes, leur visage neutre, en fait... a l'air énervé ou pas content, etc.
Ah,
et donc, du coup, même si ces personnes-là vont bien, elles vivent leur meilleure vie, ben, on a l'impression qu'il y a un problème.
Ah, avec les commissures des lèvres qui sont vers le bas, c'est ça ?
Ouais.
Pas forcément, ça peut être juste ça peut être le regard aussi, machin, peu importe.
C'est quand t'as ton visage...
De repos. Il a l'air de faire la gueule.
A l'air d'exprimer une émotion, mais parce que...
Plutôt une émotion négative,
en fait. Et du coup, tu peux avoir toute une diversité dans les émotions interprétées sur un visage au repos, où il y a des gens où on aura l'impression qu'ils sont naturellement tristes, alors que pas du tout, des gens qui ont l'air d'être en colère, alors que non, ils sont plutôt neutres. Et du coup, c'est ce resting face qu'on définit après en fonction de l'émotion qu'on a l'impression de voir chez l'autre.
Et du coup, chez toi, c'était quoi quand t'étais
jeune ? Justement, c'est, en fait, je sais pas, parce que du coup, effectivement, on m'a souvent dit pourquoi tu fais la gueule, arrête de bouder. Et finalement, au bout d'un moment, je m'énerve à cause de ça, du coup. Mais alors qu'à la base, moi, tout va bien. Mais... Donc, est-ce que c'est parce que les gens voyaient dans mon visage des émotions que je n'avais pas ? Ou est-ce que c'était vraiment parce qu'il y avait vraiment un problème d'émotion, j'étais pas assez expressif et les gens n'étaient pas sûrs ? Je sais pas, mais effectivement, on m'a souvent... reprocher ce manque de...
Comment les émotions, enfin tes particularités dans le domaine émotionnel ont impacté ton parcours diagnostique vers l'autisme ?
Justement, alors avant l'autisme, moi j'étais diagnostiqué pour dépression bien des années avant. Voilà, donc ça a posé problème à ce niveau-là et en fait pour tous mes diagnostics de manière générale. C'est-à-dire que si on me demande comment ça va et que je ne suis pas capable de dire comment ça va, comment est-ce que je peux travailler là-dessus en fait ? Comment est-ce qu'on peut me proposer une solution si moi-même je suis pas capable de le dire en fait ? C'est simple en fait, parce que du coup pareil, ça je m'en rendais pas compte à l'époque, je m'en rends compte maintenant, mais j'ai déjà vu, à l'époque on m'a fait voir beaucoup de psychologues, de psychiatres, au CMPP ou ce genre de choses.
Donc juste pour préciser, CMPP c'est Centre Médico-Psychopédagogique, et du coup tu as consulté en CMPP quand tu étais enfant,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, beaucoup, parce que j'avais des problèmes à l'école, à l'époque mes parents ont divorcé aussi, donc on nous faisait voir des psychologues pour voir comment on allait décider où est-ce qu'on allait rester, ce genre de choses. Enfin bref, j'en ai vu beaucoup, et la problématique c'était toujours la même pour moi, c'est que voilà, la séance commence, on me demande comment ça va, et bah voilà, moi je sais pas, donc... Donc parfois, ils estimaient que j'allais bien et qu'il n'y a pas de problème, alors qu'en fait, j'en avais. Parfois, ils estimaient qu'il y avait des problèmes. Enfin, ils se rendaient compte que quelque chose n'allait pas, mais ils l'attribuaient à quelque chose qui ne correspondait pas. Et donc, du coup, moi, j'étais frustré. Je me dis, mais non, en fait, qu'est-ce que je fous là ? Et donc, inévitablement, ça empêche de trouver la bonne réponse. Donc, même dans des moments où ça allait mieux, on voyait certains signes négatifs qui, en fait, n'en étaient pas. Et donc, après coup, c'est ce que je peux dire, étaient en fait des symptômes autistiques. Donc voilà, en fait, tout ça, ça a retardé mon diagnostic de manière générale, en fait, que ce soit l'autisme, la défense, tous mes diagnostics, globalement.
Et qu'est-ce qui t'a amené au diagnostic d'autisme, finalement ?
Alors, pour le diagnostic, j'ai eu donc, ce problème d'émotion, mais j'en ai eu un autre, en fait, alors je sais pas lequel a été le plus problématique, c'est que je ne me reconnaissais pas dans tous les critères diagnostiques qui me semblaient être nécessaires en fait, alors qu'ils ne l'étaient pas. Parce que moi en fait finalement je avant d'être diagnostiqué, j'étais relativement éduqué à la question de l'autisme parce que toutes ces personnes du coup que je connaissais qui étaient autistes, qui le sont toujours, c'est... avaient des symptômes communs, une base commune, qui ne me correspondaient pas nécessairement. Et donc l'exemple le plus parlant, c'est les intérêts restreints. C'est quelque chose dans lequel je ne me suis jamais reconnu. Et donc, bah, toute cette période où je côtoyais des autistes, même dans mon entourage très proche, même si je voyais qu'il y avait plein de choses qui me correspondaient, je me disais non, je ne me reconnais pas dans cette histoire d'intérêt restreint, donc ça bloque, ça doit être autre chose. Dès que j'ai appris que les intérêts restreints étaient juste une sous-catégorie potentielle pour le diagnostic, ce n'était pas nécessaire à tous les diagnostics, c'est là que je me suis dit ok, donc potentiellement ça colle pour moi. Alors j'ai constaté pas mal de similitudes avec certains autistes de mon entourage, mais jamais au point de me dire vraiment on est pareil, quoi. Donc il y avait toujours une distance dans notre expérience, même au niveau des émotions, du coup, puisque c'est le sujet. Certains d'entre eux ont leurs propres problèmes de gestion des émotions, mais en pratique, nos situations ne se ressemblaient pas tant que ça. Donc,
ça veut dire que tu avais l'impression qu'ils exprimaient différemment les émotions, qu'ils les reconnaissaient différemment ?
Ouais, en fait, je pense que de manière générale, ils reconnaissaient peut-être mieux leurs émotions que moi, d'ailleurs même très certainement. Après, peut-être que il et elle avaient des problèmes pour les gérer, parfois, ce genre de choses, mais ouais, c'était plus un problème de gestion, j'ai l'impression, et moi, surtout un problème de reconnaissance. Alors, pour moi, de gestion aussi, hein, mais chez les autres, j'ai pas constaté de problème de reconnaissance qui me parle.
Ouais. Tu avais l'impression que c'était plus facile pour eux d'avoir accès à leurs émotions. Par contre, c'était la gestion de l'émotion qui posait souci, alors que toi, tu ressentais beaucoup plus de difficultés dans l'identification de ton propre état émotionnel, finalement.
Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment facile pour eux, la reconnaissance ? Je sais pas, hein, mais l'impression que j'ai d'extérieur et des échanges que j'ai eu avec ces gens-là, j'ai l'impression que c'est moins difficile pour eux.
Finalement, toi, tes émotions, c'est difficile d'accès. Mais les émotions des autres, est-ce que toi, tu as l'impression d'arriver à identifier ce que les autres peuvent ressentir ?
Non, c'est difficile d'accès aussi. Alors pareil, sur le même modèle de mes indices extérieurs pour mes émotions, ben, j'essaie de faire la même chose pour les gens, d'évaluer comment ils peuvent se sentir en fonction d'indices extérieurs. Mais c'est pas toujours évident. Et donc, finalement, souvent, je me retrouve à leur demander pour être sûr ou ce genre de choses.
Oui, parce que si tu leur poses pas la question, ça t'oblige à être un peu expert de comment ils fonctionnent en termes de tout un tas de trucs. Hein,
ouais. Et c'est problématique parce que je peux mettre en place tout un tas d'indices qui peuvent être plus ou moins pertinents, mais il y aura toujours des exceptions, je pourrai jamais être sûr, etc. Et donc, ça me pose problème quand même de me reposer sur un indice et en fait de poser une mauvaise question, etc. Si j'établis une liste d'indices pour moi, pour mes émotions et que je me trompe, c'est pas bien grave, ça me concerne moi seul en fait. Mais faire une erreur de jugement sur quelqu'un d'autre, je trouve ça un peu plus problématique parce que ça peut. Enfin. Ouais, j'ai pas de suite, mais.
Okay. Ça a quoi comme conséquence de se tromper, de poser la question, en tout cas tu dis que tu poses la question.
En fait, je sais pas quelles conséquences ça peut avoir, justement, et c'est pour ça que je préfère ne pas le faire, parce que si la conséquence peut être gênante pour l'autre ou pas, moi, cette idée me gêne, en fait.
Quel est le lien, Maxime, entre autisme et ressenti des émotions ?
Si on regarde un petit peu la littérature sur l'autisme et les émotions, ce qui est assez récent hein, finalement, en même temps comme toute la littérature sur l'autisme, ce qu'on voit en premier, c'est la notion d'alexithymie. L'alexithymie, c'est grosso modo la difficulté à identifier, à différencier et à exprimer ses émotions. Et ça, c'est un phénomène qui est finalement assez commun chez les personnes qui présentent un fonctionnement autistique. Y a une méta-analyse récente qui montre qu'on a entre 33 et 63% des personnes autistes dans les études qui présentent une alexithymie, et du coup avec un petit peu de correction statistique, on arrive à une moyenne, grosso modo, une estimation à 50% de la population autistique qui présenterait une alexithymie. Ce qui est assez énorme par rapport à la population générale.
C'est combien de la population générale ?
La population générale, on est à peu près à 5%.
D'accord.
Donc on est 10 fois plus que la population générale. En sachant que l'alexithymie est associée aussi à de plus grands risques de troubles anxieux, de troubles dépressifs, et tout un tas de complications sur le plan de la santé mentale.
C'est dû à quoi?
Et bien finalement, on a quelques pistes explicatives, rien de très sûr, mais grosso modo, l'alexithymie est souvent due à deux mécanismes. Peut être due à deux mécanismes différents, soit une diminution globale de l'émotion. Finalement, on ressent moins les émotions. C'est souvent ce qu'on retrouve par exemple dans la dépression. Mais ça peut aussi être dû à une difficulté pour le cerveau finalement à traiter les informations qui ont attrait aux émotions et du coup à prendre conscience de l'expérience émotionnelle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on va vivre l'expérience, mais notre cerveau ne va pas forcément parvenir à analyser correctement les informations qui nous parviennent et à coller l'étiquette de la bonne émotion. Et finalement, quelques études ont montré qu'on est plutôt dans ce deuxième cas, chez les personnes qui présentent un fonctionnement autistique, avec des difficultés à traiter les éléments ayant attrait aux émotions, et du coup une difficulté à dire « bah oui, j'ai une émotion et c'est celle-ci ». Il y a tout un tas de choses qui sont dites dans la littérature par rapport aux émotions, mais ce qui est intéressant, c'est de le coupler avec ce qu'on sait aussi sur l'autisme, notamment sur la sensorialité. Donc si on mêle ça avec d'autres informations qu'on a sur l'autisme, notamment en lien avec la dissensorialité, comme ça a été évoqué dans d'autres épisodes, en fait, on se rend compte qu'une des hypothèses principales pour expliquer cette alexithymie, c'est cette difficulté à percevoir les sensations qui viennent de son propre corps. Et ça, c'est même généralisable, autre que l'émotion, on a aussi la difficulté à percevoir quand on est malade, à percevoir quand on a trop chaud, quand on a trop froid, quand on a envie d'aller aux toilettes, quand on a envie de manger. Ça, c'est assez commun, finalement, chez les personnes autistes. Et...
C'est ce qu'on appelle les troubles de l'interoception ou de la proprioception, c'est ça?
Ouais. Mmh. Plutôt interoceptif, vu que ça va être les sensations qui ont attrait au battement du cœur, au rythme respiratoire, à la chaleur... donc on va être vraiment sur une difficulté d'origine sensorielle presque qui va expliquer les difficultés à coller une étiquette sur l'émotion. Je ne ressens pas toutes les informations, je vis, j'ai une augmentation du rythme cardiaque, j'ai une boule au ventre, je transpire plus, j'ai une augmentation de la chaleur corporelle, mais en même temps je n'arrive pas à dire que tout ça se passe et à coller une justification émotionnelle à ça.
Firas, est-ce que tu te reconnais justement dans ce qui est là sur la théorie par rapport... Enfin, moi, je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la transpiration. Et là, il y a un processus très conscient qui fait que tu te dis « Ah, attention, est-ce que c'est en lien avec la température de la pièce? Est-ce que c'est en lien avec autre chose? Potentiellement une émotion ?»
Ouais, ça me parle parce que maintenant, c'est devenu un processus... plus actif que je ne faisais pas avant.
Ouais, ça reste actif en fait, c'est-à-dire que c'est conscient, c'est pas quelque chose qui est automatique, c'est ça?
Alors oui, tous ces problèmes de reconnaissance sensorielle, c'est les problèmes que j'avais jusque-là. Et ce qui a changé, alors il y a deux choses qui ont changé, ça rejoint ce que je disais sur ma nouvelle définition de l'émotion. Ça a été un moment charnière en fait dans mon parcours thérapeutique et dans ma manière de gérer les émotions, mais avant ça, il y avait la découverte du terme alexithymie de manière générale, parce que avant le diagnostic, et même après le diagnostic, je savais même pas ce que c'était, voilà, je l'ai appris un peu plus tard, et ça a fait une différence énorme en fait. C'est les deux gros moments pour moi, la découverte de l'alexithymie et la nouvelle définition des émotions, qui m'a permis de faire ce travail plus actif, parce que avant, effectivement, donc je me rendais pas compte... De mes réactions physiques et donc finalement de mes émotions, j'avais pas pu mettre en place cette habitude de chercher ces indices physiques en fait. Donc je me laissais souvent avoir et je me rendais trop tard de quand j'avais trop chaud ou trop tard quand j'avais. Peu importe les symptômes physiques du coup.
En fait, t'as eu un truc un peu où t'as été obligé d'être en hypervigilance pour percevoir les symptômes physiques ou physiologiques de façon à apprendre en fait à reconnaître tes émotions, ça serait ça?
Ouais, alors ça c'est ce que j'ai mis en place depuis que j'ai découvert l'alexithymie, ouais. Et la nouvelle définition des émotions. C'est que là, j'ai appris à avoir constamment cette vigilance pour qu'elle soit presque par défaut en fait, pour que les choses ne m'échappent pas, parce que sinon tout passé parce que je me disais pas que c'était si important.
Et du coup, avant que tu aies cette définition-là, avant que tu aies cette notion de l'alexithymie, tes émotions, tu les gérais comment?
Alors pareil, ça c'est très optimiste parce que est-ce que je les gérais déjà?
Ça signifie quoi, si tu veux gérer
Bah,
quoi?
ça veut dire que en fait, je me laissais aller en fait. Je sais.
Ça donne quoi en pratique quand tu laisses aller, que tu gères pas, enfin effectivement, que tu gères pas du tout l'émotion?
Pareil, en fait, c'est le même problème qui revient toujours. C'est comme j'ai du mal, même maintenant, à me représenter les émotions de l'époque, puisqu'à l'époque, je ne faisais pas ce travail. C'est difficile de voir, d'avoir une image précise de ce qui se passait. Donc,
Effectivement.
en fait, ce qui se passait, c'est que je ne me sentais pas bien toute la journée, sans forcément m'en rendre compte. Ça, je suis capable de le dire maintenant, mais à l'époque, non. Et jusqu'au jour où j'étais trop fatigué, que je craquais, que là, on arrivait à un stade où c'était une évidence. Mais tout ce qu'il y avait avant, en fait, c'était le flou total. Donc,
Ça, c'est un peu le risque de l'alexithymie, c'est que les émotions, elles sont quand même là, même si on ne les perçoit pas. Et du coup, le moment où on les perçoit, c'est qu'elles sont hyper intenses.
c'est
Donc on peut être
ça.
dans un... Tu parlais de dépression tout à l'heure, l'émotion de tristesse peut être à un degré tellement intense qu'on arrive à des dépressions extrêmement sévères au moment où on les perçoit alors qu'on n'avait rien perçu avant.
C'est ça. C'est que vraiment, en fait, je me rendais compte après coup. On en revient au problème du ça va dont je parlais au début de l'émission. Quand on me demandait ça va au fur et à mesure des journées, des semaines, des mois, je disais ok, ça va, ou je sais pas, ou peu importe. Et c'est, par contre, si on me demandait à l'échelle d'une année comment cette année s'est passée, là j'ai hâte de dire ouais, ça pue la merde. Mais sur le moment, c'était pas possible. Il faut pas
Si,
dire.
si,
Si, si,
vas-y,
t'as le
vas-y,
droit,
on a dit
lâche-toi.
pire dans le podcast.
Alors, ce que ça donne dans les situations extrêmes, pour moi, ça se traduisait en beaucoup de sommeil. J'allais dire, ça se traduisait en beaucoup de sommeil perturbé, mais comme je disais, j'ai toujours eu le sommeil perturbé. Donc, pareil, c'est difficile de faire la différence. Vraiment, je mangeais plus. Ça, c'était. Pour moi, c'est l'exemple le plus parlant. Donc, je perdais vraiment je perdais du poids, mais de manière vraiment pas saine du tout. Donc, je devais avoir des compléments alimentaires parfois parce que je pouvais vraiment plus me nourrir. J'ai plus la force de m'occuper de moi. Donc, voilà, me faire à manger, bien me laver, voilà. Au lieu de prendre ma douche. Ça, c'est un bon indice aussi pour moi. Moi, j'aime bien prendre ma douche le matin. Parce que j'ai du mal à démarrer ma journée si je ne l'ai pas fait. C'est juste un rituel. Enfin, c'est une habitude, bon, peu importe. Et donc, je me suis rendu compte au fil du temps que quand je vais mal, j'ai du mal à initier ma journée. En fait, je procrastine la douche. Parce que la douche. Je sais pas pour vous, moi c'est un moment où, en fait, c'est un moment où comme on est littéralement seul dans la douche, enfin, il n'y a pas de distraction, on est seul avec soi-même, on réfléchit et c'est le moment parfait pour ruminer en fait quand ça va mal. Donc quand moi je vais pas bien, je procrastine la douche jusque tard le soir et comme je peux pas démarrer ma journée avant d'avoir pris ma douche, bah, je passe mes journées à rien faire en attendant le moment où je vais devoir la prendre. Je me suis rendu compte au fil du temps du coup que voilà, ah tiens, cette semaine j'ai tendance à être douche de l'après-midi, douche du soir, c'est que ça va pas. Donc voilà, pareil. Donc dans des cas extrêmes, ben, je procrastine ma douche sur plus longtemps que ça encore et ça devient immonde. Je me nourris plus, ce genre de choses. Je fais plus les tâches administratives, pareil. Alors ça part déjà avant que ce soit la situation soit extrême,
Et du
mais
coup, comment tu gères derrière l'émotion, une fois que tu l'as perçue, finalement?
ouais. C'est ça en fait. Je gère pas en fait.
Ah oui, c'est ça,
Littéralement,
là.
je reste chez moi et je sais pas quoi faire en fait.
Donc, du coup, chez toi, les émotions intenses vont plutôt s'exprimer sur un versant assez dépressif, avec une diminution de l'activité, avec beaucoup de procrastination. Est-ce qu'il y a déjà eu aussi des émotions extrêmes qui ont donné des épisodes de violence, des épisodes sur un autre versant que celui du repli et de la baisse d'activité?
Alors, c'est vrai que je deviens plus irritable aussi. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. Mais pareil, est-ce que c'est un indice d'émotions négatives intenses et sur le long terme? Je suis pas sûr parce que ça peut commencer avant en fait. Donc, c'est pas spécifique au cas extrême. Ouais. Donc, alors, en termes de violence extrême, il m'est arrivé de faire une tentative de suicide. Donc là, bon, a priori, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Et ça rentre dans le cadre de la violence, du coup, contre moi-même. Mais ouais. Mais bon, c'est un indice un peu foireux, parce que si je dois attendre une tentative de suicide pour me dire tiens, il y a un problème. Bon. Donc celui-là, j'en tiens pas compte. Ouais. Donc, et je gère pas particulièrement bien, parce que voilà, j'ai tendance à attendre. En fait, j'attends que ça passe, en fait.
Ça, c'est toujours actuel ou c'était avant justement d'avoir compris ce que c'était que l'alexithymie, avant d'avoir donné une définition aux émotions, enfin en tout cas d'avoir...
Non, tout ça, c'était avant, c'était alors non avant. Seulement avant l'alexithymie, avant le diagnostic, avant... ouais, c'était avant beaucoup de choses en fait.
Qu'est-ce que ça a changé du coup, le diagnostic et la compréhension de ces éléments-là?
Ouais, alors c'est plus la compréhension de ces éléments-là spécifiques plus que le diagnostic, parce que finalement, ouais. Le diagnostic, en pratique, il n'a pas changé grand-chose à ma vie, à l'époque en tout cas. Et même, comme je disais, dans l'autisme, alors je parlais des intérêts restreints, même de manière générale, il y a plein de symptômes qui ne me parlent pas, qui ne me correspondent pas. Donc c'est vraiment spécifiquement la découverte de l'alexithymie pour moi qui a changé les choses. Même quand je voyais, voilà, quand je rencontrais même d'autres autistes après mon diagnostic, je me rendais compte que voilà, souvent on avait plus de différences que de similitudes. Donc, ouais. Et donc, ce que ça m'a amené, donc, cette découverte de l'alexithymie, c'est juste d'éviter les moments où je perds totalement le contrôle, en fait. C'est pas parfait, hein. Il y a toujours des moments où je suis débordé, où j'arrive pas à me rendre compte des émotions malgré mes stratégies. Mais ouais, j'ai plus ces pics aussi bas, et alors ces pics ne sont plus aussi durables, du coup, si jamais ils arrivent.
Et tu fais comment, du coup, pour ne plus monter aussi haut dans les pics et pour les faire durer moins longtemps?
Alors la première chose que je fais avant d'entrer dans les stratégies, c'est d'être sûr que ce ne soit pas juste un problème de batterie sociale. Donc je diminue mes activités sociales, je prends plus de temps pour moi, pour me reposer. Si ça règle problème, c'est que tout va bien. D'ailleurs, même si à ce moment-là, en fait, c'est un problème d'émotion, en fait, je me pose même plus la question. Mais c'est pour éliminer la possibilité que ce soit juste un problème de batterie sociale. Si l'émotion négative est toujours là, que je la ressens sans pouvoir la définir précisément, ou si les symptômes physiques sont toujours là et que malgré ce repos de batterie, c'est que là il y a un problème supplémentaire. Et là, je mets en place mes stratégies. Alors, moi, ce que je fais dernièrement, c'est des techniques de respiration. Très marrant, ça, d'ailleurs, parce que pendant très longtemps, ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, ça m'énervait énormément à chaque fois que les gens me proposaient d'en faire, parce que j'essaye, et quand on me dit « oui, respire doucement, machin, truc, respire en carré, triangulaire, machin, bidule », et moi je suis là, je respire, on me dit tu respires 4 secondes, 3 secondes, et je compte précisément dans ma tête, et tout ce qui se passe c'est que je suis essoufflé en fait à la fin, donc je suis toujours stressé et énervé, enfin pas énervé mais frustré. Pareil pour la méditation, on me dit oui essaie de penser à rien, mais qui sait que c'est, non bah je peux pas en fait penser à rien. Alors après on me dit oui, c'est pas grave si tu penses à autre chose, l'important c'est de revenir après, je dis ok d'accord. Mais ça fonctionnait jamais quand j'essayais. Et en fait, je me suis rendu compte finalement que il faut s'habituer aux techniques de... Alors déjà, il faut trouver celles qui nous correspondent, parce que tous ne fonctionnent pas forcément. Et surtout, il faut se l'approprier et ne pas attendre que ça aille mal pour les apprendre, en fait. Ça, c'est un problème que j'avais, c'est que moi, on me disait, ben, quand ça va pas, essaye ça. Ah oui, mais quand ça va pas, je suis pas à même de maîtriser la technique et de la faire correctement puisque ça va pas. Donc en fait il a fallu que j'apprenne à la faire quand je vais bien, quand j'en ai pas besoin, pour qu'une fois que ça aille mal, ça aille mieux. Et donc là maintenant j'ai des techniques de respiration, etc. Je les ai appris en groupe de gestion des émotions, du coup.
Du coup c'est le groupe gestion des émotions, c'est un groupe de quel type?
Alors c'est une TCC.
Et... Donc TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive, hein, c'est ouais. Ça
Ça doit être ça.
C'est ça.
Ok. Et ouais, alors c'est là que j'ai appris ces méthodes de relaxation, et même de manière plus générale, en fait. Toute cette compréhension des émotions de manière générale. Alors la définition dont j'ai parlé tout à l'heure et les précisions sur l'alexithymie, c'est essentiellement là, en fait, que je les ai appris.
Donc tu as appris à reconnaître, enfin à trouver des stratégies pour reconnaître tes émotions et à, les, et à mieux les gérer derrière, c'est ce que tu nous as expliqué.
Surtout affiner les stratégies, parce que y a certaines choses que j'essayais parfois de mettre en place avant moi-même avec ma connaissance personnelle, mais que je faisais très mal et que j'ai appris à mieux faire et j'ai pris une meilleure conscience de la situation à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que finalement le diagnostic lui-même n'a pas changé énormément de choses en pratique, c'est plutôt sur... les thérapies qui ont suivi ensuite que les choses...
T'as fait quoi justement comme thérapie ensuite, en dehors de ce groupe de TCC que tu évoques?
Alors, pour la dépression, j'ai pas toujours été suivi, mais ça fait un moment que je suis suivi en CMP, donc centre médico-psychologique. Voilà, merci. Et donc j'avais ce suivi-là. Et après, avec l'introduction du diagnostic d'autisme, ça a un peu changé la dynamique avec mon psychiatre là-bas. Donc, c'est pas une thérapie que j'ai commencé après le diagnostic, mais qui a été influencée par le diagnostic.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a changé avec ton psychiatre?
Alors, comme on en parlait tout à l'heure, comme je disais, il arrivait que des psychiatres... voit des signes de dépression, des signes de situations négatives en moi qui en fait, c'est pas qu'ils n'existaient pas, mais c'était plus la réflexion d'un symptôme autistique. Donc c'était pas forcément un problème. Typiquement, si je disais « Ok, en ce moment je sors pas, je vois personne, etc. » ils avaient tendance, ou elles, à penser que, voilà, que c'était un symptôme problématique de dépression. Après le diagnostic, en l'occurrence c'était un psychiatre, je sens qu'il a réussi à prendre du recul, à faire la différence entre ce qui n'est pas problématique. Voilà, c'est quand je lui disais par exemple, en ce moment je reste chez moi, je fais pas grand chose, il se disait pas tiens il y a un problème, il faut que je fasse gaffe. Voilà, il disait bon ok, ça c'est il maîtrise suffisamment, on va chercher ailleurs pour voir si la situation s'aggrave ou pas, ce genre de choses.
C'est-à-dire que toi et tes soignants, vous avez été plus en capacité, avec cette connaissance diagnostique, de faire plus la différence entre les symptômes autistiques et le reste des symptômes qui seraient du domaine des émotions, quoi.
Ouais. J'ai été en meilleure mesure de leur expliquer ma difficulté au niveau des émotions une fois que j'ai appris ça. Ça a facilité l'échange. Voilà, c'est quand ils me demandent comment ça va de manière générale, je ne suis pas sûr de comment répondre. Au moins, ils ont conscience du problème. Donc, il y a moins de friction dans l'échange, on perd moins de temps sur des choses qu'on ne peut pas résoudre.
Tu as eu la prise en charge psychiatrique qui s'est un petit peu modulée par rapport au diagnostic. Tu as eu ce groupe de thérapie comportementale et cognitive. Est-ce que tu as eu autre chose, ou est-ce que tu as actuellement d'autres prises en charge?
En plus de ces deux choses-là, je suis aussi pris en charge pour le trouble de l'attention que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors c'est une prise en charge médicamenteuse, j'ai pas fait de thérapie particulière à ce niveau, mais j'envisage de faire une TCC supplémentaire pas nécessairement liée au trouble de l'attention d'ailleurs, mais voilà, j'ai, dans mes projets personnels en l'occurrence de reprise d'études pour moi, ou peut-être même autre chose, peu importe, mais je sais qu'à un moment dans mon intégration sociale, il va falloir que... Je pense que ce serait pertinent d'entreprendre d'autres TCC.
Du coup, en individuel cette fois-ci.
Oui, voilà, parce que celle que j'ai fait, effectivement, c'était en groupe. Et donc là, pour gérer des situations vraiment très spécifiques, à très personnelles, voilà.
Et moi j'ai une petite question vis-à-vis de ça. Du coup, tu as ces prises en charge là, mais toi également tu participes à la prise en charge d'autres personnes en intervenant sur un groupe qu'on a. Est-ce que ça t'aide aussi?
Je dirais pas que je participe à la prise en charge moi-même personnellement, mais je participe, donc je co-anime dans un groupe d'éducation thérapeutique pour les adultes autistes sans déficience intellectuelle. Je crois que c'est ça le titre. J'y ai participé en tant que personne autiste à l'origine, et je suis revenu ensuite. Vous m'avez invité ensuite à participer en tant que co-animateur. Comme ce n'est pas une thérapie en soi, c'est un groupe d'éducation, je ne sais pas si j'appellerais ça une prise en charge, mais oui, je co-anime. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui m'aide ou est-ce que j'ai été aidé et donc j'ai pu faire ça? Je sais pas, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'en sais rien. Mais comme de toute évidence, c'est un signe plutôt positif. Pareil, je me pose pas trop la question de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Tant que ça se passe bien, je suis content. Et donc, voilà.
Et nous aussi.
Oui. Qu'est-ce qui reste problématique dans ta gestion émotionnelle actuellement?
C'est une bonne question. Difficile. Alors, une bonne question, en fait, c'est une manière de dire que c'est une question difficile. Je pense que ce serait bien, à terme, que je trouve une manière d'affiner ma reconnaissance des émotions, en fait, hein, même avec des indices extérieurs. Voilà, de passer à ça va globalement pas top, à qu'est-ce que pas top veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis triste? Est-ce que ça veut dire que je suis en colère? Est-ce que, voilà. L'idéal, ce serait ça. Pour le reste, c'est juste. Je pense que c'est juste une question de pratique, en fait. Je sais pas, je crois pas que j'ai quelque chose en plus à faire, mais plus. J'ai pas quelque chose de différent à faire. Juste à faire un peu plus de ce que je fais déjà. Pour m'habituer et être plus efficace à ce niveau-là.
Maxime, est-ce que tu peux juste reprendre un petit peu ce qui a été dit par Firas en donnant ton point de vue de psychologue TCC sur justement qu'est-ce qui est fait dans ces groupes ou prise en charge individuelle en TCC, gestion des émotions?
Oui.
Dans l'autisme plus spécifiquement.
Dans l'autisme adulte, en tout cas, je parlerai plus sans déficience puisque c'est plus ma spécialité. L'idée, c'est de s'appuyer sur la littérature récente toujours et de proposer, du coup, sur base des connaissances qu'on a, les thérapies et les outils les plus adaptés. Parce que, en fait, dans la problématique de la dysrégulation émotionnelle, comme on l'appelle dans notre langage particulier, l'idée, c'est qu'il y a déjà des soucis au niveau de l'identification des émotions, ça on en a parlé, mais ensuite, dans les comportements qui sont mis en place pour les réguler, on retrouve énormément de comportements qui, finalement, n'ont pas l'effet escompté, qui vont plutôt renforcer les difficultés plutôt que les améliorer, et qui vont avoir des impacts aussi sur tout l'entourage. On va avoir, par exemple, des réactions... des réactions de colère extrêmes quand on aura des problèmes pour gérer la colère avec énormément de violence hétéro ou surtout auto-agressive aussi, hein, où on se blesse, où on casse des choses et on finit blessé aussi, où on est extrêmement violent avec tout ce qui nous entoure verbalement et physiquement. On va avoir au contraire un repli total dans certains cas. Et l'idée, c'est de réussir à mieux identifier ses émotions, mais aussi à mieux les gérer par la suite, tout en sachant qu'en fait, dans la gestion des émotions, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, surtout dans l'autisme sans déficience, puisqu'en fait, au-delà de la réaction émotionnelle, il y a la réaction tout court, et on réagit à plein de choses. Il y avait des auteurs qui avaient fait un petit résumé de tout ce qui joue dans la dysrégulation émotionnelle dans l'autisme, et on avait du coup l'alexithymie, mais on avait aussi la rigidité autistique un petit peu connue maintenant, où toute situation nouvelle va entraîner du stress, donc la nouveauté renforce les difficultés. On avait aussi des difficultés à identifier les aspects sociaux, comme les émotions des autres, comme ce qu'ils veulent dire, comme quelles sont leurs intentions derrière. Et ça, du coup, ça rajoute un élément supplémentaire qui vient complexifier la réaction émotionnelle dans un cadre social. Et puis, du coup, on a aussi toute cette sensorialité qui reste extrêmement présente, avec parfois, dans les stratégies mises en place, une recherche de stimulation spécifique, où on va voir aussi des gens se serrer très fort ou demander à ce qu'on les serre très fort. On va avoir aussi des gens qui crient ou qui font énormément de bruit, mais en fait, c'est aussi une stimulation. On va avoir des gens qui se balancent. Et tout ça, en fait, c'est des réactions pour gérer les émotions qui sont mises en place. Et parfois, ça marche, mais parfois, ça ne marche pas. Et du coup, l'objectif des TCC, en tout cas, je parlerai plus de ça puisque c'est plutôt mon domaine, c'est vraiment en priorité de travailler sur la reconnaissance des émotions de soi, en priorité. Donc aller chercher consciemment comme l'a très bien expliqué Firas, aller chercher les indicateurs qui vont nous dire si ça va, si ça va pas, et ensuite aller chercher des indicateurs plus spécifiques à chacune des émotions. Pour la colère, je vais aller chercher, par exemple, est-ce que ça tape dans les tempes, est-ce que j'ai le cœur qui bat un peu plus vite, est-ce que je respire fort, est-ce que j'ai chaud, je transpire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir envie de frapper des choses, ce genre d'éléments. Pour la tristesse, on va aller regarder, par exemple, est-ce qu'on n'est pas plus désactivé que d'habitude, est-ce qu'on n'a pas tendance à se replier sur soi, est-ce qu'on n'a pas tendance à avoir tout le temps les mêmes pensées sur une chose qu'on a perdue, sur une chose qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. Et pareil pour l'anxiété, on va essayer de voir, est-ce que dans nos pensées, il n'y a pas des éléments qui vont nous faire dire que là, on est anxieux? Est-ce qu'on n'arrête pas de penser tout le temps à la même situation qui va arriver et ça nous stresse et on n'arrive pas à faire autre chose?
Et une fois que tu as reconnu l'émotion, qu'est-ce qu'on apprend dans ces prises en charge?
On apprend plein de choses différentes. On va d'abord apprendre, par exemple, les techniques de relaxation. Les techniques de relaxation assez simples, finalement, ça va être des choses très physiques comme faire des étirements. Ça va être prendre un temps pour respirer, avec plein de stratégies de respiration diverses et variées, en triangle, en carré, en toutes les formes que vous voulez.
Et ce que tu disais, Firas, c'est que c'est vraiment des choses qu'il faut faire justement en étant bien. Enfin, c'est pas le moment où on est anxieux qu'on commence à apprendre ça.
Quoi. Moi, je pense que c'est la seule raison pour laquelle avant ça ne fonctionnait pas et maintenant ça fonctionne. Ouais. Enfin, en tout cas, la plus grande des raisons pour moi.
L'idée, c'est de s'appuyer aussi sur les bons côtés en fait du TSA. Une fois qu'un outil est maîtrisé, il est maîtrisé, et s'il est ritualisé, en fait, c'est encore mieux parce que c'est d'autant plus simple d'aller le chercher quand on en a besoin. En fait, il rentre un petit peu dans la bibliothèque des choses à disposition, on peut aller le chercher beaucoup plus facilement.
Ça induirait la possibilité justement de noter ou d'intégrer une sorte de plan, enfin de choses à faire si ça ne va pas.
Ouais, alors du coup, ce qu'on recommande, c'est... après avoir développé tout un ensemble de stratégies comme la résolution de problèmes, comme le travail sur les pensées, comme tout ça, ça va être de faire des plans de crise. Parce qu'on sait qu'il y a des fois où ça va partir trop loin. On sait qu'il y a des fois où on sera tellement activé qu'on ne pourra pas se désactiver simplement en respirant, simplement en prenant l'air, simplement en faisant quelque chose de positif. Ok, dans ce cas-là, on fait un plan dans lequel on va mettre tout ce qu'on sait qui marche à certains moments, selon mon niveau d'activation, selon l'émotion qui m'a activé, selon le contexte dans lequel je suis. Et je vais essayer de voir déjà au quotidien qu'est-ce qui fonctionne pour m'apaiser. Et je vais faire mon plan avec toutes les ressources que j'ai à disposition. Par exemple, il y a une participante au dernier groupe qu'on a fait qui a évoqué des stratégies auxquelles même nous, on n'avait pas du tout pensé. Quand elle avait des grosses crises de colère, elle allait chercher un paquet de trucs surgelés. Et elle le serrait fort parce que du coup, il y avait cette colère et cette envie de casser. Et en fait, serrer fort le paquet de petits pois, ça permettait de bien se contracter et donc ça apaisait finalement. Il y avait aussi le froid du paquet qui aidait à se calmer. Et ça, c'est un truc qui lui était très propre.
Et du coup, c'est l'intérêt d'être en groupe, du coup, c'est qu'on apprend des stratégies des autres.
Exactement. Et aller chercher toujours des stratégies qui vont fonctionner avec vous et vous uniquement. Et peu importe si ça marche avec le voisin ou pas, on s'en fiche complètement. Et du coup, mettre en place comme ça un ensemble de stratégies qu'on sait qu'on va pouvoir utiliser même en cas de crise. Quitte à les préparer, en fait. Quitte à préparer le fait que je vais être confronté à des situations stressantes. Je sais que j'ai un plan de crise, je sais qu'est-ce que j'aurai à ce moment-là sous la main. Je vais déjà anticiper et me dire que si jamais j'ai une crise à ce moment-là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais pouvoir appeler telle personne. Je vais peut-être aller m'enfermer dans les toilettes parce que je serai dans un environnement social trop stimulant. Je vais peut-être appeler une amie parce qu'elle sait comment réagir quand moi, je vais pas bien. Et ainsi de suite. Et on va vraiment faire des plans d'urgence, entre guillemets. Pour savoir gérer. Et au-delà de ça, il y a d'autres recommandations qui sont faites. On recommande aussi tout ce qui est pleine conscience, qui peut vachement aider aussi quand on a surtout des problématiques en lien avec l'anxiété et la dépression, qui fonctionnent aussi chez les personnes avec TSA. On a quelques preuves maintenant des thérapies interpersonnelles qui peuvent aussi fonctionner. Et il y a tout un ensemble de recommandations qui sont faites par l'HAS au niveau national. Et qui
l'HAS
liste,
qui est la Haute Autorité de Santé.
La Haute Autorité de Santé qui fait une liste des recommandations de bonnes pratiques.
Et effectivement, c'est intéressant de savoir. En tout cas, la plus recommandée pour le moment dans l'autisme, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Il y en a d'autres qui sont en cours de validation, ouais. Mais c'est important de le savoir.
Et le MDR aussi
le
pour
MDR,
les traumas.
Pour les traumas, tout à fait. Alors Firas, on ne va pas finir en te demandant comment tu vas aujourd'hui. On peut peut-être retourner la question autrement. Quels sont les challenges que tu gardes actuellement, tes projets d'avenir, les choses que tu veux améliorer, aménager encore dans ta vie?
Alors, comment ça va? Je ne sais pas, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais tous les indices sont plutôt positifs. Donc, vous pouvez en tirer la conclusion que vous voulez.
Tu as quoi comme projet d'avenir
Alors, mon projet, là, mon tout premier projet à court terme, c'est de faire du shopping, acheter des vrais vêtements de saison, parce que voilà, on parlait de ce problème de transpiration, de chaleur, de se pas s'en rendre compte. Moi, j'ai l'habitude de m'habiller toujours avec les premières choses venues. Et c'est bizarre, après, dans le métro, je suis tiens, j'ai un peu chaud, tiens. Donc, première chose à faire, ça va être ça. Après, sur du plus long terme, pour moi, c'est régler ce problème de fatigue qui sont certainement liés à ces émotions, etc. Donc, voilà, affiner toutes mes méthodes, mes machins, mes pratiques pour avoir un meilleur contrôle là-dessus et être moins fatigué de manière générale. Et donc après, ça, en espérant que ça puisse m'aider à faire une transition sur des projets plus concrets. Voilà, je parlais de reprise d'études tout à l'heure, où ça peut être n'importe quoi, ça peut être une formation.
Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui ont des difficultés de gestion des émotions, de reconnaissance de leurs émotions dans le cadre d'un autisme?
Je conseillerais de faire des recherches sur les différents profils d'autisme, etc. Parce que comme on disait, toutes les problématiques ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes autistes. Il y a des profils vachement différents, etc. Donc, voilà, il est possible que vous soyez autiste et que, comme moi, vous n'ayez jamais entendu parler d'alexithymie, etc., alors que ça vous concerne. Donc, soyez ouvert d'esprit à ce niveau-là. Ne vous enfermez pas dans une vision d'autisme qui est très, qui serait trop stéréotypée, même si elle peut exister, hein, mais que... qui ne vous concerne pas, donc en fait, je sais.
Ça serait du coup de mieux se connaître, tout simplement, ce que tu dis, c'est ça?
Ouais, en fait, finalement, ouais. J'ai envie de dire, ça revient à ça.
Ouais, c'est une belle conclusion. Donc, merci beaucoup, Firas, pour cet entretien que tu nous as accordé.
Merci de m'avoir invité.
Merci.
Avec grand plaisir.
Et le take-home message, c'est vraiment de faire attention à vous, essayer d'être alerte à vos émotions, à vos ressentis, et prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller voir des professionnels si jamais vous sentez que vous n'y arrivez pas seul.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt!